L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
L'Afrique dans tous ses états avec Marie-Claude Siakezak. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour Kylaine.
Et votre invité, Patrick Darlot. Alors, c'est la troisième émission avec vous, hein, Patrick.
Oui, parce que...
Il en a des choses à dire.
L'autre jour, il ne nous a pas tout dit.
Il ne fallait pas me
faire venir.
Hein.
Il nous a
regretté.
Non, mais il nous a tenu un haleine. Il nous a raconté comment un blanc peut arriver et puis peut s'immiscer dans la vie des masques, des fabricants de masques. C'est pas fabricants, d'ailleurs, artisans. Et toute la symbolique du masque qu'on connaît en Afrique, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont très friands de ça et que c'est très rare d'en trouver des... Et puis même, normalement, on ne peut pas les acquérir, ceux qui sont vraiment investis. Et il nous avait raconté comment, tout à coup, quelqu'un comme ça, un peu, presque naïvement, arrive là et puis se fait adopter. Et puis se fait d'ailleurs adopter par... vous allez nous raconter un petit peu l'épopée, trouve la famille là-bas.
Le côté naïvement est justement ça, en fait. C'est parce que, en fait, c'est pas s'immiscer, hein. Moi, j'ai rien demandé dans cette histoire.
Tout à fait.
C'est vraiment la surprise de la rencontre humaine. C'était prévu par personne.
Et la surprise des deux côtés.
Je me retrouve effectivement fils de féticheur et neveu de chef de masque, mais c'est une histoire qui n'a aucun sens intellectuel. C'est simplement uniquement du partage affectif et dans lequel rien n'avait été prévu à l'avance. Et la suite de l'histoire, d'ailleurs, l'enchaînement qui va se faire, c'est toujours des questions de circonstances. Mm-hmm. Les hasards ont fait qu'au départ, c'est effectivement un clan de sculpteurs de masques et de forgerons, en fin de compte, donc forgerons, ceux qui font les outils, donc qui sont ceux qui aussi sculptent une partie des idoles, des masques et des différents éléments. Le masque de bois, celui qu'on voit dans les musées chez nous, n'étant d'ailleurs qu'un objet sans intérêt pour eux. C'est un peu l'emballage cadeau, quoi. C'est le costume du danseur. Lorsqu'on parle du masque sur cette zone de l'Afrique de l'Ouest, en fait, on parle de la danse, on parle de la transe, on parle de l'élément dans lequel le danseur est pris par la partie spirituelle de cette aventure. D'ailleurs, physiquement, c'est réellement une transe. Et je veux dire, ils sont toujours marrés parce qu'un jour, ils m'ont dit « C'est dommage que tu sois vieux parce que sinon, tu aurais pu danser aussi. » Bon, parce qu'effectivement, il faut être clair.
Il faut être en
physiquement,
forme.
Entre 16 et 20, et allez, 30 ans au grand maximum, on est capable d'avoir l'effort physique correspondant. Après ça, on ne peut plus faire. Un masque, ça fait entre 5 à 6 et 7 kilos. Le costume fait dans les 12 kilos. C'est-à-dire que vous allez devoir danser en transe avec un costume qui fait 30-35 kilos.
Et il fait très chaud en plus.
Il fait 40 degrés à l'ombre. On est dans une situation où on est hors de notre commun habituel. On est sur autre chose. Donc, l'histoire se passe en deux temps. Il y a une partie qui se passe en Afrique. C'est-à-dire que je me retrouve être... comme si j'étais initié. On ne me pose pas la question de savoir si on va m'initier ou pas. Directement, on me demande de faire des choses comme si j'étais né dans cet élément-là. À tel point que même dans certains cas, tant qu'un sculpteur de masques me renvoie dans les cordes en disant « Je t'ai déjà montré ». Ça sous-entend « Pourquoi tu poses des questions idiotes ?» dans ces situations-là, il faut simplement se laisser partir comme le galet dans la rivière. Si on essaie de lutter, de toute manière, on tombera que sur des quiproquos. Donc, je ne me pose plus de question de savoir si je comprends, si je ne comprends pas. Je pars dans un sens. Et je pars dans un sens exactement comme eux partent dans l'autre. C'est-à-dire que je suis en Afrique, je me débrouille pour être là, puis je vois ce qui se passe. Et puis, a priori, on va dire que la survie physique est assurée, ne serait-ce que par eux, parce que sinon, je ne suis pas capable de manger et de boire. C'est-à-dire que s'ils ne me fournissent pas le dolo et de quoi manger, viande de brousse comme le reste, moi, j'ai ma survie, elle est de 3 jours. Comme effectivement, eux, lorsqu'ils se retrouvent en Europe, sont dans la même situation.
Tout à fait.
C'est-à-dire que je les nourris, je les déplace, je vérifie qu'ils ne sont pas malades, etc., etc. Et je me retrouve dans une situation étonnante dans laquelle, tant qu'un sculpteur de masques vient à mon invitation et à celle de Denise visiter la France, on permet comme ça au groupe de pouvoir vivre dans la mesure où ils vont vendre ici soit des objets qu'ils vont sculpter sur place, soit des masques qu'ils ont ramenés, donc c'est des masques qui ne sont pas consacrés, mais qui n'ont pas de valeur religieuse. Hein. C'est exactement comme vous achetez une image à Rome ou à Lourdes, et puis si vous ne la faites pas bénir, et bien, en fin de compte, c'est simplement une projection. Elle n'a pas de valeur religieuse, elle ne l'en prendra qu'en fonction de la projection que vous allez mettre dessus. Et puis, en discutant une année, comme on m'avait demandé, Tanquin me dit, mais qui voudrait voir les masques qu'il y a en Europe. Il sait très bien que dans les musées, il y a des collections de masques. Les hasards font qu'en fin de compte, je m'intéresse à ça. Donc, on avait fait une petite plaquette avec 3 photos. Je décide d'aller à Paris. C'est assez facile parce que ma mère y habitait à ce moment-là. Donc, pour moi, aller à Paris, c'était aller à la maison. Et je vais au Musée de l'Homme, où j'allais gamin. Et je cherche dans l'annuaire du Musée de l'Homme les conservateurs qui pouvaient s'occuper de l'Afrique. Bon, je me pointe dans l'espèce de labyrinthe incroyable des sous-sols du musée. Et on me dit, bah non, la conservatrice, c'est pas là. Y a un gars très sympa, Manuel Valentin, qui m'explique que, voilà, que lui, il est chargé de tout ce qui est la partie inventaire, etc. Mais que bon, non, elle n'est pas là, qu'il faut que je repasse. Et je reprends l'ascenseur et il y a un monsieur très sympathique qui prend l'ascenseur en même temps que moi. Et j'avais une plaquette avec des photos et qui dépassait en fin de compte de mon sac. Et c'est ça encore le coup des génies. Hein, c'est-à-dire que dans l'ascenseur, il me dit, mais excusez-moi d'être indiscret, est-ce que je peux voir les photos que vous avez dans votre sac parce que ça m'intéresse. Et voilà. On discute et on s'arrête au rez-de-chaussée. Et puis il dit, excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Serge Tornet est directeur du Musée de l'Homme.
Les génies étaient actifs.
Voilà. Est-ce que je peux vous offrir une bière et est-ce qu'on peut parler un peu ensemble? Alors, on se retrouve, en fin de compte, je trouve la situation complètement délirante dans laquelle je suis venu là par hasard en sachant pas du tout ce qui allait se passer. Et puis, je suis face au directeur du Musée de l'Homme qui m'explique gentiment autour d'une bière que bah, je viens quand je veux, je rentre dans la réserve quand je veux, du moment que c'est avec Manuel Valentin. Et puis, qu'effectivement, si je veux voir les fichiers et les inventaires dedans, bah, allons-y, quoi. C'est pas du tout une difficulté. Et donc, je me retrouve dans la situation étonnante dans laquelle, pendant plusieurs séjours, je fais avec Manuel Valentin l'inventaire de ce qu'il y a. On découvre 2 choses. Un, c'est qu'il y a beaucoup plus de masques et d'objets de culte existants dans les réserves qu'il y en a dans l'inventaire. Donc, on refait des fiches complémentaires et on découvre qu'en plus de ça, il manque des éléments. C'est-à-dire qu'on découvre qu'une partie de ce fonds de collection provient de l'exposition de 1937 sur l'Afrique, l'exposition sur les colonies. Et en fin de compte, que tout n'est pas complet. Donc on fait 2 choses. Un, c'est que il propose que Tanquin, à la prochaine séjour, vienne et fasse la lecture d'inventaire. Regarde les différents objets et explique ce qu'il y a dedans. Et puis, d'autre part, qu'il faudrait regarder sur d'autres musées en France s'il n'y a pas le fonds de collection existant. Ce qui fait que je prends contact d'un côté avec Hélène Joubert, la directrice du musée des arts africains océaniens, et puis, qui est maintenant directrice de la partie africaine du musée du Quai Branly. Et puis, Tanquin vient. Et Tanquin me dit, j'ai amené quelques masques. Donc je lui dis, tu mets tout dans un sac et on y va ensemble. Alors on a une situation qui devient absolument extraordinaire, qui devient quelque chose hors du temps. C'est que Manuel Valentin et Serge Tornet, sachant que j'allais venir avec Tanquin, avaient préparé sur une table la totalité des pièces, et on avait une 40aine de pièces au total, de l'ethnie correspondante. Donc Tanquin rentre dans la pièce et la mâchoire qui se décroche, oh, parce qu'effectivement, pour lui, c'est incroyable. Il voit des pièces qui ont une centaine d'années. Mmh. Alors qu'il sait très bien que les pièces qui sculptent, la durée de vie en brousse, c'est 25-30 ans. Après ça, elles sont bouffées par les termites et puis elles disparaissent par la danse, par de destruction, en quelque sorte. Et puis, après ça, c'est Tanquin qui sort de son sac et qui pose sur la table des pièces qui vient de sculpter dans l'année et qui sont absolument traditionnellement exactement les mêmes qu'il y a une centaine d'années. Alors ce coup-ci, c'est Serge Tornet et Manuel Valentin qui restent avec la mâchoire décrochée, sidérés devant ce qu'il est. Et je veux dire, Denise et moi, on jubile parce qu'on est arrivé effectivement à recréer cette synergie qu'on avait découvert avant. Et donc on continue l'histoire en faisant le musée à l'époque qui était le musée des arts africains et océaniens, où on découvre dans les réserves les pièces qui manquaient de la collection de 1937 du musée de l'homme. Puis on fait la collection Barbier-Muller à Genève. Et puis on fera en fin de compte une exposition au musée Schwab en Suisse, qui après ça fera une série d'expositions dans d'autres festivals de Suisse à propos de la signature de la convention sur les vols des biens culturels que la Suisse au départ ne signait pas et que grâce à Simon Haller, elle arrivera à signer. Donc on a une série d'enchaînements qui sont des enchaînements pas du tout prévus et dans lequel on se trouve face au fait que une fois de plus, l'histoire, en fin de compte, croise la vie quotidienne de ces gens-là. Et ça, c'est vraiment incompréhensible. Et ça va entraîner une deuxième épisode, qui est le fait que, en discutant avec Tankien, en assistant à un certain nombre de funérailles, en retrouvant la musique de Bobo et le balafon, je me trouve dans la situation où ça me rappelle des souvenirs de 15 ans avant, où j'avais été dans la côte péruvienne au sud de Lima, et je m'étais retrouvé, à l'époque où, en fin de compte, c'était encore des haciendas, au moment de la réforme agraire, avec le fait qu'il y avait une culture noire extrêmement importante, qui étaient des gens qui, en fin de compte, étaient descendants d'esclaves provenant à travers les Caraïbes. Donc je décide, en fin de compte, de partir en Amérique latine sur le réseau des copains que j'ai et de me mettre en contact avec ces Noirs péruviens pour voir ce qu'il en est. Et là, la situation devient étrange parce que par des amis, je tombe sur l'un des groupes les plus dynamiques de théâtre et de musique, de danse, qui est le groupe Millennio, dirigé par Louis Sandoval. Et ces gens-là, en fin de compte, sont dans une mythologie de l'Afrique primitive, de leur origine, de leurs racines, extrêmement forte. Alors, je me retrouve un jour invité par, pas par eux directement, par un de mes amis qui me fait le contact. Et je me retrouve dans une rencontre avec eux, et ça se passe très mal. Ça se passe très mal parce que moi, j'arrive avec donc des albums de photos, j'arrive avec du son, ce que j'avais enregistré à Bobo, ce que j'avais enregistré dans des cérémonies, donc des percussions et les éléments. Et ces gens, en fait, me font un discours revendicatif de noir, d'esclavage, etc., absolument terrible, mais regarde avec attention l'ensemble des éléments. Bon. On repart avec mon copain Carlos qui m'avait amené et qui me servait un peu de traducteur parce qu'à l'époque, je parlais pas très bien. Je comprenais très bien l'espagnol, mais je parlais assez mal. Surtout que bon, l'espagnol péruvien, il a quand même...
Oui, c'est pas le même accent.
Il n'y a pas le même accent et puis il y a des racines ouais, de mots où il faut des fois faire un peu le calcul. Hein. C'est un peu comme le québécois par rapport au français. Mmh. Et on repart avec Carlos en disant, bon, c'est à louper, quoi. On est passé à côté. Quelques jours après, on a un coup de téléphone de Roberto Arguedas, qui était le directeur musical, qui est toujours le directeur musical de Millennio, et qui nous invite à venir passer le dimanche dans leur local, qui est un peu un local de plein air, dans lequel ils font de la musique. Bon, on y retourne, mais j'y retourne sans me faire aucune illusion par rapport à ça. Et là, je me trouve dans une situation ahurissante, c'est-à-dire que il y a une dizaine de danseurs et de musiciens et ils font une journée entière de spectacle puisqu'on était ensemble, mais à la fois une grillade et puis de la musique, etc. Mais exactement comme si on se connaissait depuis 20 ans. C'est-à-dire que je me trouve dans une situation complètement ahurissante, c'est que je me suis quasiment fait jeter en tant que blanc qui raconte des conneries 3 jours avant. Et dans le week-end d'après, comme si en fin de compte, on se connaissait depuis 50 ans. Bon, dans ces cas-là, je m'adapte. Hein, je prends comme ça vient. Et quelques jours après, je me retrouve avec Roberto Arguedas à boire une bière. Alors, boire avec une bière avec Roberto, c'est difficile. C'est automatiquement au pluriel. Et rapidement, on peut dire qu'il devient extrêmement affectif. Voilà, ça a chauffé un peu dans son crâne. Et donc, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais il y a un moment où ça devient vraiment intéressant quand il a un peu décollé. Après ça, ça devient un peu plus compliqué. Et faire sortir du taxi à la fin est assez
difficile. Il faut le bon dosage, quoi.
Voilà, il y a un dosage intermédiaire où ça devient extrêmement intéressant. Et là, il me dit, mais tu sais quelle est la difficulté auquel on est confronté, c'est que si tes photos sont vraies, il n'y a aucune raison qu'elles ne soient pas vraies, si c'est toi qui les as prises, alors nous, on est riches, on n'est pas pauvres. Et donc, en fin de compte, dans cette histoire-là, ils avaient accueilli un Français blanc qui se la jouait ethnologue machin chose, et puis eux, ils avaient une discours revendicatif africain, et moi, j'ai croulé leur truc. Et ça va se passer d'ailleurs une autre fois plus tard avec Sandoval, mais je vous le raconterai à la prochaine émission, dans lequel effectivement on s'est trouvé dans une situation étrange, c'est-à-dire que j'étais un intermédiaire alors que j'aurais pas dû l'être, puisque j'étais blanc et j'étais tout faux, hein, un mâle blanc, la cinquantaine. Occidental, enfin vraiment le mauvais interprète. Et là, par contre, j'apportais aux uns et aux autres des éléments d'information. Donc je rentre en Europe et je me trouve dans une situation absolument bizarre en racontant ça à Denise, en le racontant d'ailleurs à Marie-Claude tout ça. Et moi, je me dis, ce qui serait intéressant, mon rêve que j'ai pas pu réaliser encore. C'est pour ça qu'on a créé une association qui s'appelait Rencontre Continentale. C'était de dire, ce qui serait idéal pour moi, c'est de pouvoir ramener les Sud-Américains noirs en Afrique. Parce que bon, techniquement, c'est très très compliqué de ramener les Africains en Amérique du Sud. Ce serait peut-être possible pour un ou deux. Mais bon, là, il faut toujours penser problème culturel, problème d'hygiène, problème de transport, problème de différences culturelles. Mais par contre, faire venir les Sud-Américains en Afrique, c'est possible. Donc, l'intermédiaire pour ça, c'est passé par l'Europe. Et c'est donc de trouver quelque chose qui en assurait, sinon le financement, tout au moins l'intermédiaire culturel, en ayant un peu l'idée des alliances françaises et autres. Ça n'a pas marché. Mais par contre, ce qui a marché, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais absolument pas. Je réfléchis, je me dis, où est-ce que je peux faire venir les Noirs sud-américains en Europe? Et là, il y a le Festival de Montpellier Danse. Alors, je fais un dossier avec du son, avec des photos, avec des gens, et je l'envoie à Jean-Paul Boutanari. Je l'envoie, je me rappelle très bien, je l'ai envoyé un mercredi. Donc, il a reçu la lettre le jeudi. Et le jeudi, vers 16h, il y a quelqu'un qui me téléphone, qui me dit, est-ce que, monsieur Darlot, est-ce que, voilà, c'est le secrétaire du Festival de Montpellier Danse, est-ce que vous pouvez prendre au téléphone monsieur Montanari? Je dis oui. Un peu surpris, parce que la réponse, c'était quasiment dans les 48 heures. Donc, je veux dire, et puis, il me dit, est-ce que vous êtes libre lundi matin? Je dis, écoutez, a priori, je peux me libérer. Ce n'est pas du tout un problème pour venir voir. Il me dit, ça m'arrangerait un petit peu. Je suis un petit peu indélicat de vous demander ça, mais parce que simplement, dans mon calendrier, j'ai le temps de vous recevoir et qu'on ait le temps de discuter. Donc, je me pointe gentiment le lundi. Et puis, on discute, je lui montre les éléments. Et moi, dans ma tête, je venais pour essayer de, entre guillemets, vendre comme producteur milléniaux au festival de Montpellier Danse. Et puis, Montanari, au bout d'un quart d'heure, me dit, écoutez, monsieur Allot, je vais être très direct avec vous. Vos Sud-Américains ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les masques africains pour le festival de Montpellier Danse 2001, parce que 2001, pour nous, c'est art premier. Et là, on était en 99, c'est-à-dire que j'avais devant moi un an et demi. Donc, je me trouve dans une situation étrange dans laquelle je viens avec un projet qu'on me refuse, pas d'une manière cavalière, mais en disant, on verra ça plus tard. Et puis, alors, moi, je suis pris au dépourvu, parce que je suis dans un système de tradition où je ne peux pas parler à la place des gens qu'on invite. Donc je dis à Montanari, écoutez, c'est pas difficile, moi je m'y attendais pas du tout. Autant avec les Sud-Américains, je peux me trouver dans la situation où je peux tout de suite vous dire comment on peut s'organiser. Autant là, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, je ne peux vous répondre qu'après avoir été, être retourné au Burkina, demander aux anciens s'ils acceptent qu'il y ait une délégation qui vienne danser officielle de Montpellier Danse. Mais ça, je ne peux pas me permettre au niveau de la tradition de vous répondre aujourd'hui. Il me dit, mais écoutez, ça n'a aucune importance. Moi, ce que je vous propose, c'est que j'invite les chorégraphes sud-américains à venir l'année prochaine au Festival de Montpellier Danse. Et puis, dans 6 mois, vous me dites si, si vous pouvez venir faire venir les masques africains dans un an et demi. Et pour les histoires d'intendance, pour les histoires de voir combien ça coûte, à quoi ça correspond, voyez, avec Gilles Delcoulcio, mon assistante, c'est elle qui verra ça. Et je me retrouve dans le bureau de Gisèle à négocier des éléments dont je ne sais pas s'il y a la possibilité un an et demi après. Et je repars avec un chèque correspondant au tiers de la somme de ce qu'on avait discuté avec Gisèle. C'est-à-dire, bon, si on le faisait actuellement, il faudrait au moins un budget 60 000 euros. C'est-à-dire, je repars avec un chèque de 20 000 euros que je ne peux pas encaisser parce que je n'ai pas créé de société permettant de faire cette production. Avec le fait que, par l'ambassade de France, on sait très bien qu'une ou deux personnes des Sud-Américains seront dans le festival dans les ateliers du Festival de Montpellier Danse de l'an 2000 et que je dois négocier, si c'est possible, et si c'est pas possible, tant pis, et les sommes dépensées seront acquises, la sortie des masques du Montpellier Danse en 2001. Donc c'est ce que je me propose de vous raconter à la prochaine émission. Mais on est dans une situation où l'histoire devient une histoire de fou qui m'échappe complètement, dans laquelle je suis simplement l'organisateur de fait. Je ne le subis pas, mais simplement, je ne peux pas discuter. Je me trouve dans un système qui fonctionne de lui-même, dans lequel simplement je me suis le moteur sans aucune possibilité d'autre chose que d'accepter le réel.
Suite à la prochaine émission.
Oui. Voilà.
En attendant, vous nous avez préparé aussi un extrait musical.
L'extrait musical, justement, c'est un extrait musical d'un disque qu'on a réalisé à ce moment-là tout avec Millenio. Dans lequel j'ai choisi la première plage, qui est celle de Carlos Aire, qui est un noir sud-américain péruvien, et dans lequel l'interprétation et l'accompagnement a été créé par Roberto Arguedas. Et ça, c'est pour vous montrer simplement que là, effectivement, vous allez tout de suite entendre le métissage entre une culture africaine et la culture espagnole. On est vraiment dans un univers qui est indépendant de ça, mais dans lequel, si vous écoutez les percussions, vous entendrez une percussion africaine.
Merci Patrick Darlot.
Merci.
À très bientôt.
À bientôt.
Au revoir Marie-Claude.
Au revoir à tous.
Sobre la mar de mi sangre un toro bravo llegó. panal robado da llanto en lugar de miel.
Y navegando hacia España, sobre la mar de mi sangre. Y navegando hacia España, sobre la mar de mi sangre. El toro bravo se fue, el toro bravo se fue.
El toro bravo.